Nos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Alzheimer la radio, c'est la rentrée sur cette antenne et je suis donc ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison et ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet pas forcément facile à affronter, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est la peur du regard des autres, ce que cela peut entraîner pour un proche ou un aidant. Et on va parler de ce sujet donc dans cette émission. Notre invitée aujourd'hui, Judith Mollard-Palacios, psychologue de l'association France Alzheimer. Bonjour Judith et ravie de vous retrouver.
Bonjour Valérie, de même, hein, ravie de vous retrouver ce matin.
Alors pour commencer cette petite question, est-ce commun d'avoir un aidant qui dit d'un proche malade, voilà, je ne veux pas qu'il ou elle participe à des activités ou sorte ou fasse des courses, de peur d'être confronté au dehors, à la société et donc au regard des autres. C'est commun ça?
Oui, en tout cas, beaucoup de familles qui sont à un moment donné confrontées à la maladie neuro-évolutive d'un proche, que ce soit la maladie d'Alzheimer, la maladie à Cordes-Lévy ou une dégénérescence frontotemporale, sont soumis de fait aux représentations souvent très négatives qui accompagnent ces pathologies du cerveau, ces pathologies qui entraînent plusieurs handicaps, mais des handicaps qui ne se voient pas forcément, qui ont un caractère d'invisibilité et qui cependant peuvent entraîner des manifestations, des modifications du comportement, de l'attitude, et qui peuvent être regardés par l'extérieur, avec quelque chose de plutôt négatif, dépersonnalisant. Enfin, et bien sûr que la crainte des familles, c'est de éventuellement soumettre leurs proches à ce regard pas toujours bienveillant, pas toujours compréhensif de ce qui se passe, de ce qui se vit pour la personne malade. Et ça peut aller jusqu'à, en effet, des réticences à laisser la personne poursuivre les activités dont elle avait l'habitude ou les échanges ou les relations sociales qu'elle pouvait avoir jusqu'alors, une crainte pour l'aidant que les choses se voient dans l'échange que peut avoir la personne malade avec le voisinage, par exemple, ou même avec les amis, avec le reste de la famille. Et ça peut d'ailleurs aller jusqu'à un véritable repli sur soi de ce couple, personne affectée de la maladie et son aidant le plus proche.
Oui, justement, vous parliez de ces activités. Il y en a beaucoup, par exemple, proposées par des associations comme France Alzheimer. Je pense, par exemple, à des visites de musées, du ping-pong. Est-ce que certains aidants refusent justement aussi que leurs proches participent à tout cela pour éviter qu'ils soient confrontés à d'autres personnes malades, mais qui sont, par exemple, plus avancées dans la maladie? Est-ce que ça aussi, c'est une réaction que vous connaissez, qui est, entre guillemets, commune?
Oui, en tout cas, ces aidants peuvent évoquer cette crainte de confronter leurs proches malades à la présence de personnes avec des symptômes plus évolués. Et souvent, il y a chez ces aidants ce souci de protéger, de prévenir. Sauf que parfois, à force de protéger ou de prévenir des réactions finalement qu'on suppose, qu'on n'a pas forcément vérifiées, mais qu'on suppose difficiles ou douloureuses pour son proche malade, le risque, encore une fois, c'est de se couper progressivement et la personne hein, malade, mais aussi l'aidant le plus proche, et notamment le conjoint, petit à petit, des activités qui font le sel de la vie, qui font la qualité de la vie, qui nous permettent de rester en lien avec l'extérieur, de continuer à socialiser. Et tout ça, hein, en même temps, est tout à fait bénéfique pour la personne malade et son aidant. Et on sait bien qu'on ne peut guérir la maladie, mais on peut agir sur la qualité de vie de la personne et de son aidant. Donc le risque, c'est qu'en voulant protéger, finalement, hein, on arrive à une situation à l'inverse, c'est-à-dire de réduire hein, les interactions sociales, de réduire enfin tout ce qui peut aussi mobiliser la personne cognitivement. Donc je crois qu'il faut vraiment dire aux aidants avant de penser que la personne va être en difficulté ou va souffrir hein, d'une situation, soit du regard hein, de l'extérieur, soit de la proximité d'avec des personnes avec des symptômes plus évolués, eh bien faut-il, avant de penser hein, que cela va être mauvais pour la personne, faut-il d'abord le lui poser la question et puis peut-être même prendre le risque hein, de ces interactions et ensuite de voir comment la personne vit les choses. Et souvent, on est plutôt surpris des capacités finalement de répartie hein, de la personne malade, mais des capacités d'adaptation à des situations qu'on pouvait imaginer difficiles pour elle. Donc peut-être prévenir hein, que ces attitudes de protection peuvent parfois produire l'inverse que ce que l'on hein, de ce que l'on souhaite. Hein.
Parce qu'il peut y avoir des conséquences vraiment sur la maladie à tout cela.
C'est sûr que on sait bien que dans ces maladies longues et évolutives qui entraînent hein, une perte d'autonomie de plus en plus importante, le risque, c'est véritablement que ce couple, personne malade et son aidant le plus proche, s'isole progressivement jusqu'à une situation de crise, de rupture, avec hein, des situations qui peuvent aller vers des situations de maltraitance mutuelle. C'est-à-dire qu'il faut absolument hein, que ce couple ne reste pas seul, ne s'isole pas, mais au contraire, reste en contact avec l'extérieur et surtout puisse aller hein, vers des dispositifs adaptés qui vont faire en sorte hein, que les activités proposées vont être le plus adaptées possible et vont garantir hein, d'une sécurité affective, une sécurité psychologique à la personne malade et de fait à son aidant familial.
Comment aider justement ces aidants à aller au-delà de ce regard des autres? On sait que c'est évidemment pas facile du tout, mais il y a bien peut-être des petits conseils ou des choses à mettre en place pour passer cette barrière.
Ben, c'est déjà pouvoir l'évoquer, pouvoir en parler avec d'autres personnes qui vivent des situations identiques. Hein. C'est vraiment l'apport très important des associations France Alzheimer. C'est vraiment que cet aidant ne se sente plus seul, mais se sente appartenir hein, à un groupe, alors qu'il n'a pas choisi, bien sûr, hein, qui s'est imposé à lui à un moment donné de sa vie, mais un groupe hein, au milieu duquel il va pouvoir se reconnaître et pouvoir s'appuyer, hein, trouver du soutien, du co-soutien mutuel, justement pour évoquer ses craintes, pour partager ses hésitations, pour franchir parfois le pas avec d'autres. Hein, c'est plus facile d'aller avec un groupe de pairs, PAIRS, hein, au musée, que tout seul, isolé, avec le risque hein, que notre proche malade ait une réaction un peu, un peu à côté et qu'il soit regardé. Hein. Alors que là, en étant en groupe, on se sent plus fort, on peut s'entraider, on peut se co-soutenir. Et je crois que ça, c'est vraiment un des premiers conseils. Ne restez pas seul et rejoindre hein, une communauté en quelque sorte qui va nous garantir hein, une forme de sécurité, d'appui, de soutien, d'accompagnement, de guidance. Après, ce qu'on peut aussi aussi observé, c'est que certains aidants familiaux ont aussi du mal à lâcher, entre guillemets, leur proche malade, à le laisser vivre des choses en dehors de soi, hein, de considérer qu'il est encore en mesure de profiter d'un certain nombre d'activités, d'échanges avec d'autres. On voit ces aidants qui sous-estiment, alors souvent avec de bonnes intentions pour protéger encore une fois leurs proches malades, mais sous-estiment ses compétences et peuvent dire aux associations « Ah ben non, je pense que mon mari ne sera pas capable de participer à telle activité ou sans moi, il est perdu ». Donc on voit aussi que c'est une maladie qui va renforcer des situations d'interdépendance, où l'aidant est aussi en difficulté de laisser de l'autonomie à son proche malade. Et c'est pour ça d'ailleurs que France Alzheimer a mis en place ce que l'on appelle les halte-relais, qui proposent des activités partagées, aidant personnes malades, mais aussi des activités séparées, pour montrer à l'aidant que son proche malade peut faire des choses sans lui, peut profiter d'activités sans forcément qu'il soit là, et pour l'aider aussi, peut-être cet aidant à un moment donné accepter par exemple que son proche malade bénéficie d'une prise en charge en accueil de jour. Et voilà, je crois qu'il y a aussi cet objectif-là, d'aider l'aidant à compter, à faire confiance à son proche malade, et c'est ce qu'on appelle peut-être la présomption de compétence. À ne pas considérer d'entrée de jeu qu'il ne sera pas compétent pour faire telle ou telle chose.
Eh bien, merci beaucoup, Judith Mollard-Palacios, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Et puis, bien sûr, on vous retrouvera très vite sur cette antenne.
Merci, au revoir.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Comme toujours, je vous le disais, vous pouvez réagir, poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Vos questions, nos réponses.